À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. » Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite, « Demeurez en moi comme moi en vous. » En effet, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Nous ne sommes pas dans la Sarthe tellement dans un pays de vignobles, sans doute le département d'à côté un peu plus. Et puis, si nous allons dans l'Est ou en Allemagne, nous voyons aussi de grands hectares de vignes. Il y en a aussi en Terre Sainte, en Israël. Et la vigne, ça a toujours inspiré les poètes, mais aussi les prophètes. C'est ainsi que vous lisez dans l'Ancien Testament un très beau poème qui est mis dans la bouche de Dieu et qui est un poème qui se rapporte à la vigne. Et Dieu dit, j'ai planté une vigne et j'en attendais de beaux fruits, mais elle ne m'a donné que du verjus. Et que vais-je faire de cette vigne, ainsi de suite. Isaïe chapitre 5, vous pourrez regarder dans l'Ancien Testament, Isaïe chapitre 5, un beau poème qui utilise cette image de la vigne. Et quand on fait un petit peu le parcours de ce mot dans l'Ancien Testament, on voit bien que la vigne, c'est un mot qui désigne, au fond, le peuple de Dieu tout entier. Le peuple de Dieu tout entier est comme une vigne qui produit des raisins, qui produit du fruit. Jésus, dans certaines autres paraboles, va parler des envoyés à la vigne pour aller chercher les fruits et qui sont malheureusement maltraités, refusés, voire même mis à mort. Et il y a même une parabole où Jésus dira, mettant dans la bouche du propriétaire de la vigne, « Je vais leur envoyer mon fils, sûrement ils respecteront mon fils. » Et puis le fils, lorsque les vignerons le voient, est mis à mort et les vignerons disent, « Tuons-le et nous aurons l'héritage. » C'est une façon pour Jésus de parler de sa passion toute proche et de nous faire comprendre quel est le péché qui consiste à vouloir se mettre à la place de Dieu, à vouloir prendre ce que Dieu ne peut que nous donner, et de toute façon ce dont nous devons lui faire retour, ce que nous devons lui restituer. C'est bien le sens de notre célébration de la messe chaque dimanche. Nous restituons à Dieu, nous offrons à Dieu, nous faisons retour à Dieu du travail de notre semaine, des fruits que nous avons pu porter. Alors Jésus remploie ici à nouveau cette image de la vigne et dit « Moi, je suis la vraie vigne ». Et en disant cela, Jésus nous fait comprendre qu'il est à lui tout seul, au fond, le peuple de Dieu nouveau au cœur de ce monde. Et que nous ne sommes que greffés sur lui, nous ne sommes que des sarments. C'est seulement la vie divine qui peut nous faire porter du fruit. Et le fruit à porter n'est pas, au fond, une sorte de suractivité à déployer. On confond malheureusement trop souvent la fécondité et l'activité. La fécondité, c'est le fait effectivement de porter un fruit spirituel, un fruit profond, un fruit divin en quelque sorte, un fruit éternel. Et c'est l'histoire qui juge la fécondité au fond. L'histoire est impitoyable, le temps au fond. Le temps juge du poids de fécondité de nos vies, de nos engagements, de nos choix, quels qu'ils soient, religieux, politiques aujourd'hui, etc. L'histoire juge, l'histoire sous-pèse. Mais voilà, ne confondons pas activité et fécondité. Jésus nous dit que, au fond, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a que lui qui puisse nous faire porter le fruit. Il n'y a que sa vie qui puisse vraiment aboutir à un fruit qui soit beau. Alors quel est ce fruit, si ce fruit n'est pas l'action ? Quel est ce fruit, si ce n'est la transformation de notre propre vie en Dieu ? Cette espèce d'alchimie mystérieuse qui fait que nous pouvons devenir quelque chose de bon pour les autres. Je n'utiliserai pas l'image du boulanger juste à côté pour dire un bon pain croustillant, agréable à manger, à voir d'abord et à sentir. Mais voilà, nous sommes invités à devenir quelque chose de bon pour ceux qui nous entourent. Et il n'y a que Jésus qui puisse nous rendre ainsi et qui puisse faire de nous des personnes transformées, transfigurées, divinisées. C'est ça le fruit. C'est ça le fruit. C'est ça la sainteté au fond. La sainteté, c'est la transformation de nous-mêmes par la sainteté divine qui nous pénètre de l'intérieur et qui nous fait vivre et qui nous transfigure, qui nous transforme. Et vous sentez que ce défi, au fond, c'est le fruit, si j'ose dire, d'une vie entière. C'est le combat d'une vie entière. Mais il faut nous redire des choses tout à fait élémentaires comme celle-ci, c'est que, au fond, un malade dans un hôpital, sur un lit d'hôpital, une personne qui est privée de sa mobilité, comme nos frères qui sont à Andivillage, des personnes qui apparemment ne peuvent plus rien faire parce qu'elles sont âgées, etc. Donc qui sont privées de la capacité d'activité, peuvent porter un fruit bien supérieur à ce que nous pouvons déployer, nous qui peut-être sommes en bonne santé, en pleine possession de nos moyens, et bien décidés à en découdre. On va voir ce qu'on va voir. La fécondité est d'un autre ordre que l'action. La fécondité, elle est d'abord spirituelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on a une statue ici, dans l'église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que, au fond, dans son Carmel, elle est rentrée au Carmel à 16 ans, elle est morte à un peu plus de 20 quelques années de la tuberculose, et elle disait que dans son Carmel, voilà, elle marchait pour un missionnaire, qu'elle priait pour ses frères prêtres, que ramasser une épingle qui traîne par terre avec beaucoup d'amour avait sûrement autant de poids que de déployer une très grande activité labellisée comme extraordinaire, etc., etc. Avoir le sens de la vraie fécondité. C'est pour ça que le fait que Jésus soit mort sur la croix, nous devons bien voir que sa mort a une très grande fécondité. Jésus a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors nous sommes dans une échelle de valeur tout à fait différente de celle de la société. Dans la société, il faut se démener comme un beau diable, si j'ose dire, et être hyper actif, mais voilà. Dans l'Église et dans... C'est pour ça qu'on ne peut même pas dire, vous voyez, toutes ces personnes qui sont engagées pour faire vivre la paroisse, voilà, ça c'est... Eh bien, la fécondité, c'est d'un autre ordre, c'est pas ça non plus. Et il n'y a que les yeux de la foi qui puissent nous permettre de la voir. Et pour ça, il faut demander au Seigneur de nous faire voir en profondeur, avec les lunettes de la foi, sinon on ne verra pas grand-chose. Voilà, je voulais simplement dire cela, que Jésus nous invitait à nous laisser saisir par lui, à nous laisser habiter par lui, transformer par lui. Comprenez pourquoi les saints insistent tant sur la prière d'oraison, sur le temps de prière silencieuse que nous pouvons prendre chaque jour, comme une sorte de façon de nous mettre à la disposition de Dieu pour qu'il agisse en nous, pour nous transformer. au milieu de beaucoup d'imaginations folâtres qui nous traversent évidemment et qui font qu'on se bat contre des moulins à vent intérieurement, mais le temps donné à la prière, quand il est vraiment un temps d'abandon total à Dieu, c'est un temps où Dieu nous transforme intérieurement, mystérieusement. Il y a une alchimie mystérieuse qui fait que peu à peu, il nous glorifie déjà. Il nous détache des mauvais attachements à ce monde, tout ce qui est de travers, et il nous glorifie déjà. Mais vous savez, si nous ne voulons pas le vivre maintenant, de toute façon, nous serons obligés de le vivre après. C'est ça qu'on appelle le purgatoire, ou comme disait joliment un enfant au catéchisme, le purificatoire. Et nous vivrons après notre mort. Nous débouchons en pleine lumière de Dieu, en pleine sainteté de Dieu, et nous ne pouvons que aspirer profondément à être totalement libérés, purifiés de tout ce qui est péché, égoïsme, orgueil, sensualité en nous et qui nous attache à nous-mêmes ou aux choses de la terre. Nous ne pouvons que le désirer, et c'est ça qu'on appelle le purgatoire. C'est pas un espèce de temps de punition, machin truc pour nos péchés, c'est pas ça, c'est une nécessité absolue pour vraiment nous laisser saisir par le feu de l'amour de Dieu. C'est Saint Jean de la Croix emploie l'image de la bûche qu'on met dans la cheminée. Il dit voilà, il faut que nous brûlions du feu de Dieu. Et la bûche qu'on met, généralement, elle est humide, elle est pleine de mousse, donc elle va commencer à crépiter, à fumer, etc. Et puis après, elle va se laisser saisir par le feu, et elle va devenir feu et lumière. Et c'est cela, la transfiguration en Dieu. Alors Jésus nous y invite à commencer dès maintenant pour porter du fruit, nous qui ne sommes que sarments greffés sur lui par le baptême, eh bien puissions-nous vraiment nous laisser à lui, ne pas être des sarments secs parce que trop repliés sur nos propres capacités, mais être des sarments pleins de sa sève de vie.